1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien, ouais. Oui.
Ça y est, c'est le mois du printemps.
Ben voilà, par ouais. Exemple, ouais.
Et au printemps, ne te découvre pas d'un fil. Hein.
T'as, ouais, si tu veux.
Ok, allez. émission de mars, dans la lignée de ce qu'on a fait en février sur la société.
Ouais.
Je trouvais que c'était bien de prolonger ça et de parler démocratie, société et démocratie.
D'accord, ok. Qu'en penses-tu ? Moi, j'aime bien, en fait, quand on explore des trucs, on va, comment dire, la tête va fonctionner à 100%, quoi, c'est bien.
Ouais.
Tu vois, on va réfléchir, on va connecter les neurones et tout, j'aime bien.
Ça va fumer. Pour commencer, je te propose, pour faire la transition avec le mois précédent, un son d'un philosophe québécois, Alain Deneau, mais il bosse aussi en France. Hein. Je crois qu'il est, professeur, je ne sais plus où, à Paris 8,
il est
en
prof
fait.
Et...
directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris. Il est assez connu, notamment sur les questions de... multinationales, d'abus de pouvoir. Et il a fait un bouquin il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle La médiocratie.
Ouais, tout un programme.
Tout un programme. Et il a été interviewé à cette époque-là, donc ça remonte à 2015-2016, par la journaliste indépendante Aude Lancelin. J'ai un petit extrait de l'interview.
Waouh, t'es formidable.
Vous abordez bien sûr dans ce livre la question du discours médiatique. Mais pas seulement. Vous écrivez que la société marchande dicte nos désirs, que les médias bordurent nos pensées, clôturent les arguments que nous employons jusque dans nos conversations les plus privées. Nous avons l'impression de vivre en démocratie, mais de ce fait, c'est en très large partie une illusion.
Bon, la citoyenneté, la démocratie existe de pure forme. Mais de fait, nous sommes dans un régime qui ne veut pas dire son nom. Et je pense que le problème est là. Je vais dire un gros mot. Capitalisme. C'est le mot qu'on n'utilise pas. En tout cas, pas suffisamment. Si on faisait simplement admettre que notre régime est fondamentalement capitaliste, on réglerait beaucoup de choses, d'un point de vue même mental, là, du point de vue des affects et du point de vue de la pensée. Si les républicains ici s'appelaient les capitalistes, ce serait plus clair. Si la République en marche s'appelait le capital en marche, hein, si le Parti socialiste s'appelait les socio-capitalistes, ce serait clair. Et on comprendrait qu'on est dans un régime qui a pour visée fondamentale, de par ses institutions, son organisation discursive, ses institutions judiciaires, son cadre, la recherche, son cadre universitaire, ainsi de suite, on comprendrait que tout est dédié à la croissance du capital de ceux qui en ont. Bon, et le reste serait vu comme affaire d'arrangement en fonction des rapports de force. Donc, les groupes sociaux qui auraient un rapport de force avantageux dans ce cadre-là auraient des avantages plus grands que ceux qui n'en ont pas, les gens de rien là, qui marchent dans les gares et qu'on voit même pas. Bon, et si cela était dit, on pourrait organiser le discours, les luttes, la dialectique politique et sociale sur un mode beaucoup plus ancré. Maintenant, on est dans un régime qui ne veut pas dire son nom. Nous sommes dans un régime de la fausse conscience qui œuvre continuellement à dire les choses dans un décalage inapproprié. Donc plutôt que de dire « je suis capitaliste », le dirigeant en chef ou enfin le porte-parole de ce système dira « je suis moderne ». Je suis pragmatique, je suis responsable, je suis normal,
je suis raisonnable,
je dis le vrai. J'ai du courage de dire la vérité, alors que c'est, on n'est jamais aussi loin de la vérité. Et ça, c'est sur le plan des étiquettes et des prétentions. Sur le plan de la pensée, on parlera d'économie de marché, de démocratie libérale, ainsi de suite. Donc, on sera là aussi dans du décalage, quoi. Et surtout, surtout, on fera tout pour que l'axe gauche-droite porte sur les affects. Et désormais, le spectre gauche-droite se décline par rapport à une sorte d'identification à des affects indépendamment des discours. On greffe à des discours qu'on ne tient pas, qui sont sous-entendus toujours, et c'est tout le problème, des affects. Hein, si on est d'extrême gauche, on est en colère. Si on est à gauche, on est indigné. Bon, si on est au centre, on a de l'espoir. Bon, et si on est à droite, on est anxieux, il faut aller vite, hein, blitzkrieg, bon. Et si on est à l'extrême droite, on est haineux, bon. Et on finit par voter pour l'affect qui représente le plus son propre état d'esprit, sans même être capable d'identifier le programme, l'idéologie à laquelle on a greffé cet affect-là. Et l'avantage de tout ça, puisqu'on est dans un monde où le discours est quand même largement organisé, c'est que les sémanticiens et les communicants se sont évidemment organisés pour que l'affect le plus, au fond, édifiant s'inscrive dans l'axe de l'extrême-centre. C'est-à-dire ce que Justin Trudeau chez nous ou Emmanuel Macron ici promeuvent, l'espoir, la joie, la foi en l'avenir, la jeunesse.
Oui, on a eu ça aussi.
De penser printemps, bon, ouais, il n'y a rien qu'on nous épargnera. Donc, si vous êtes une personne qui a une certaine opinion d'elle-même, qui s'attribue des qualités, parce qu'on ne s'auto-dénigre pas tout le temps, et qu'on pense qu'on a par rapport au monde quelque chose à offrir, et qu'on entretient par rapport aux gens des bons sentiments, bien évidemment qu'on va suivre ce courant-là si la gauche et la droite se déclinent strictement sur le plan des émotions. Évidemment qu'on va dire, ben, je suis face à une proposition qui m'offre de la joie, du bonheur, de la foi, de l'espoir, de la confiance, et cette confiance-là est associée au pragmatisme, à la modernité, au réalisme, par des éditocrates qui continuellement rappellent ça et qui ont un pouvoir d'étiquetage des affects et des attitudes par rapport à tous ceux qui s'éloignent du programme qui est le capitalisme, c'est-à-dire comment permettre aux puissants, aux détenteurs de capitaux, d'avoir toujours plus de dividendes, que les multinationales dont ils dépendent et qu'ils administrent aient toujours plus de revenus, toujours plus d'accès aux paradis fiscaux, et cela au profit d'un État qui est toujours très présent, mais pour eux, et de moins en moins présent pour les travailleuses et les travailleurs et pour les citoyennes et les citoyens qui ont droit à des services sociaux. Et donc, si ce programme-là qui est tue hein, peut être associé à des interfaces qui sont, elles, simplement des pauses hein, et des affects, on gagnera. Et le pouvoir de ces médias hein, et de cette oligarchie qui les détient cette organisation du discours qui passe aussi par l'expertise, l'université, par les ministères, parce qu'on finit par placer un peu tous ces pions, hein, c'est de faire de ce discours extrême-centriste le point de gravité. Et dès qu'on s'en éloigne, on sent de la résistance. Et dès qu'on s'en approche, on sent une sorte d'accueil.
Hein. Alors, vous dites en effet, nous vivons dans un système…
Bon, on va couper la parole à Aude Lancelin qui le relance.
Tu coupes la parole, ouais, mais c'est ouais. Super intéressant.
Oui, c'est super intéressant.
Il est passionnant ce garçon.
N'est-ce pas?
Ouais, et comment il décrypte les choses. Ouais. En plus, c'est super clair, super... Waouh.
Donc en fait, l'interview, elle date de mai 2018, hein, c'est plus récent que ce que je disais au départ. Je trouvais que c'était bien pour lancer... le mois qu'on va faire autour de la démocratie.
Ouais.
C'est un peu programmatique, hein, même, parce qu'il y a énormément de choses, je trouve, dont on va pouvoir discuter pendant ces quatre émissions. Et voilà, je ne sais pas, tu as une première réaction par rapport à ce que, à ce qui a été évoqué pendant ces 6 minutes.
Justement, moi, j'aime bien sa façon de dire les choses et son point de vue. Et j'aime bien tout ce qu'il dit sur la clarté, la transparence, c'est-à-dire qu'en annonçant clairement les choses, on est compris, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Et c'est vrai que du coup, quand il parle voilà, de capitalisme, etc., et qu'il décrit en fait les partis avec, en utilisant le mot capitalisme, c'est vrai que tout à coup, ça colle tellement bien que les choses sont vachement claires.
Quand il parle des affects, et qu'il qualifie effectivement les positionnements qu'on peut avoir.
Les socio-capitalistes, tu vois. Et du coup, tu dis, bah ouais, en effet, c'est ça. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on nous fait croire des choses qui en fait n'existent pas, on nous cache des choses, tu vois. Et enfin, on nous cache, peut-être pas sciemment, je sais pas.
La question peut se poser.
Et après, l'idée des affects, c'est vachement intéressant aussi. C'est vachement intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'espèce de piège dans lequel on est. L'espèce de piège qui est où en fait tu as vraiment la caste des nantis, on va dire la caste de l'élite, qui en fait met tout en place pour que son pouvoir perdure.
Exactement, ouais. Bon résumé, Ghislain. Et cette matrice capitalistique dans laquelle effectivement on est, il la décrypte de façon tellement pertinente que voilà, ben, ça peut être faire un effet révélateur, hein, parce que quand il l'évoque comme ça, ça prend tout son sens. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a une réflexion assez puissante. Alors,
il s'appelle comment donc déjà ?
Alain Denault.
Denault,
D-E-N-E-A-U-L-T.
Ok.
Donc il y a différents ouvrages, mais le premier peut-être à parcourir, c'est La médiocratie. C'est un livre qui a eu un certain succès, précédé de, c'est tout un programme, Politique de l'extrême-centre, et suivi de Gouvernance, le management totalitaire. Donc ça c'est pareil, on y reviendra, on aura l'occasion.
C'est super intéressant. Et ce monsieur donc est professeur.
Professeur de philosophie.
Ouais. Voilà, ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est pas un premier venu qui réfléchit tout seul dans son coin.
Okay, non, d'accord. Pas du tout. Et voilà. Il a pignon sur rue, hein, donc voilà, c'est pas n'importe qui.
Bon.
On enchaîne ?
Ouais, on enchaîne en fait avec un truc beaucoup plus simple, parce que moi je me suis dit, bon ok, on va parler démocratie, Bon, c'est bien, mais on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ?
Posons les bases.
La démocratie est un système politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Sauf que donner le pouvoir à tout un peuple entier, c'est compliqué. Alors on a trouvé des solutions. La solution la plus célèbre est la démocratie représentative. Vu que dans un pays, tous les habitants ne peuvent pas tous s'exprimer, on décide qu'ils soient représentés par quelques personnes. En général, cette représentation est spatiale. Ainsi, pour chaque entité géographique, il y aura un représentant, et ce représentant est élu par le peuple local. Le problème dans ce genre de démocratie représentative spatiale est qu'elle finit par être dirigée par des partis politiques puissants qui ne laisseront jamais la place à d'autres idées. Cela crée en quelque sorte une dictature du bipartisme dans la plupart des cas. Un parti peut envoyer le candidat qu'il veut dans une circonscription, parfois certains d'entre eux sont volontairement parachutés là où ils seront sûrs de gagner. Ainsi, un parti politique peut pratiquement choisir quelles personnes seront au pouvoir en jouant sur les défaillances de la démocratie. Ce qui en ressort donc est simple. Plutôt que d'avoir des représentants du peuple, ce sont plutôt des personnes toutes proches les unes des autres qui arrivent au pouvoir. On parle donc d'oligarchie plutôt que de démocratie. Ainsi, il existe peu de probabilités pour un citoyen de s'exprimer en politique, si ce n'est de faire carrière dans un parti et renoncer à une partie de ses idées pour qu'elle se coordonne avec celle de ce dernier. Le deuxième type de démocratie est celle appelée directe. Une solution a été proposée et utilisée dans certains pays, le référendum. Ainsi, plutôt que de faire élire des députés qui voteront les lois, on demande directement au peuple. Mais là encore, ce type de démocratie pose un problème. Tout d'abord, le peuple ne propose pas vraiment les référendums. Il ne fait que les accuser ou les refuser. Le second problème est que le choix se fait à la majorité et la majorité n'est pas toujours le meilleur choix. Prenons un exemple. En Suisse, comme dans tous les pays du monde, le suffrage était à l'origine exclusivement masculin. Cependant, contrairement aux autres pays, ce fut au peuple directement de voter si oui ou non il était en faveur d'accorder le droit de vote aux femmes. En 1959 a eu lieu un premier référendum et le peuple, masculin seulement, a voté contre le droit de vote des femmes. Le vote fut autorisé seulement dans certains cantons ayant voté favorablement. En 1971 a eu lieu un deuxième référendum et le peuple, masculin seulement, a voté pour le droit de vote des femmes, mais pas dans certains cantons. Les femmes avaient désormais le droit de vote à l'échelle fédérale et dans la plupart des élections cantonales. En 1990 a eu lieu un troisième référendum, mais seulement dans les cantons qui n'avaient pas encore accordé le droit de vote aux femmes. Et le peuple a, pour une troisième fois, voté non. Suite à ça, le gouvernement suisse a été obligé d'imposer de manière dictatoriale le droit de vote des femmes dans le canton d'Appenzell-Rhodes intérieur. Bref, pour résumer, nos systèmes que l'on considère démocratiques posent plusieurs problèmes. Tout d'abord, ils forment des oligarchies et deuxièmement, ils forment une dictature de la majorité. La question est donc la suivante. Le but d'une démocratie doit-elle réellement se résumer à donner la faveur à la majorité ou aux plus puissants? La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Albert Camus.
C'est rapide.
Ouais, c'est rapide.
c'est efficace. Vachement intéressant.
Ouais. Et ça montre tous les travers d'une institution qui voudrait se dire démocratique à un moment.
Et ça montre aussi la démocratie qu'on présente comme étant le régime politique absolu, etc. Enfin, formidable, idéal et tout ça. Et ben, ça peut aussi avoir quelques travers.
C'est clair.
Et que il est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut corriger ces travers-là.
Alors, on va essayer de s'y employer. On donnera des exemples plutôt à partir de la deuxième et troisième émission. Là, on va se centrer un peu plus sur cette crise de la démocratie. On fait d'abord une pause musicale et puis on revient et on parle de ça. En quoi on est en pleine crise de la démocratie? revival période disco. Hein.
Ouais, c'est trop bien, moi j'adore. C'était qui ?
Yuxek, featuring Isaac Delusion.
Ah, cool.
Into the Light.
Into the Light.
Et c'est de la French Touch, hein, tout ça. Data Gueule ?
Dis donc. oui, on aime bien cette chaîne YouTube, bah oui. Data Gueule.
Il y a plein de choses à aller explorer sur Data Gueule.
Ils sont vraiment formidables et ils se sont beaucoup intéressés à la démocratie.
Oui.
Et là,
ils ont fait un film en crowdfunding hein, sur la démocratie.
Wow, Into the Light in the crowdfunding.
Yes.
Ils se sont intéressés à la démocratie et notamment ils ont fait un petit son qui est vachement intéressant sur le mot démocratie, les mots qu'on emploie. Il y a des mots, hein, représentant, pouvoir, etc. Et ils se sont interrogés sur tous ces mots. C'est un petit son qui s'appelle démocratie, des mots, voilà. Et je vous propose de l'écouter, c'est vachement intéressant.
Allez.
Si la bine ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel-Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi ? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions ? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de « démocrate » est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'Américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs. Élisons des représentants. Voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple ? Du Moyen Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers états s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabriques, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les états de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment ? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice. Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place ? Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie.
Mmh. Intéressant.
C'est posé là. Mmh. C'est surtout intéressant, je trouve, au niveau historique,
ouais,
de voir d'où on vient. De voir d'où on vient et de voir que démocratie, ce qui pour nous semble évident et en effet intouchable,
ouais,
eh ben, au départ, ça ne l'est pas.
Mmh. Loin de là. Et puis en fait, c'est une idée qui a été acceptée relativement récemment. Hein, donc, Ce tournant que prend le Parti républicain,
oui,
en se faisant appeler finalement le Parti démocrate, ça date du début du 19e, hein, je
ouais,
crois,
c'est
1828,
ouais,
c'est
ouais.
ça. J'ai
aux
ignoré
États-Unis,
complètement
aux États-Unis,
ça.
Hein.
Donc, c'est incroyable d'imaginer ça.
Et ouais. Mmh.
Donc, je l'ai évoqué juste avant, c'est vrai que sur Datagirl, cette chaîne YouTube, il y a eu un appel de fonds il y a 2 ou 3 ans de ça pour faire un film plus conséquent de plus d'une heure sur la démocratie. Et franchement, je l'ai regardé
ouais.
à nouveau pour préparer l'émission. C'est un truc vraiment passionnant parce que ça part de l'idée de démocratie. Il développe un petit peu le module qu'on vient d'entendre, c'est quoi les origines de la démocratie. Et ça balaye jusqu'à aujourd'hui les expérimentations nouvelles qu'on évoquera au cours des prochaines émissions. Ça questionne la démocratie représentative. Est-ce que vraiment aujourd'hui on est dans des démocraties participatives, représentatives? Et Ça donne aussi l'exemple, notamment ils vont à Barcelone, ils vont en France, dans différentes villes où il y a des expérimentations, à Angers, à Grenoble, à une petite ville d'Alsace aussi qu'on évoquera la semaine prochaine. C'est vraiment extrêmement passionnant et c'est vraiment nécessaire pour réfléchir à ce qu'est véritablement la démocratie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de ne pas se réclamer, se revendiquer démocrate, c'est un crime de lèse-majesté,
ouais, bien sûr,
quasiment. Alors que finalement, c'est quoi la démocratie ?
Mm-hmm.
C'est un peu ce qu'on avait envie de travailler pendant mm-hmm. ces prochaines émissions.
Moi, je dirais même pas c'est quoi la démocratie, je dirais c'est quoi les démocraties.
Oui, il y a plusieurs façons.
Parce qu'il y a, il y a différentes façons, en effet, de mettre en place, en fait, le pouvoir du peuple, mm-hmm. par le peuple, pour le peuple. Il y a différentes façons de le mettre en place.
Et de le détourner, en l'occurrence, hein,
bah oui,
aujourd'hui,
bien sûr.
Parce que le problème, c'est ça.
Il ne faut pas oublier voilà, ce qui a été dit dans le son, c'est-à-dire qu'on met en place une démocratie représentative qui crée une élite qui est plus capable que les autres, apparemment, de penser pour eux, etc.
En tous les cas, qui se revendique comme telle. Hein.
Une oligarchie, et on crée une oligarchie, etc. Et on rejoint le premier son
mm-hmm.
en même temps. Hein, on rejoint ce premier son qui nous permet, enfin qui permet, à cette espèce de caste qui a tous les pouvoirs dans ses mains
ouais,
de
ça,
se maintenir
c'est ça,
au pouvoir. De se maintenir au pouvoir.
Ça n'est pas qu'un pouvoir politique, c'est un pouvoir
économique, médiatique,
etc. Mmh. Très bien. Bon, fin de la première émission. On continue la semaine prochaine à rentrer plus avant sur les problématiques de crise de la démocratie. On se retrouve la semaine prochaine.
Yes.
Salut.